Je vais commencer par présenter les présidents de séance. Donc je me présente, hein. Donc Anne Besson, je suis maître de conférence en littérature comparée à l'université d'Artois à Arras. Je suis cofondatrice donc en 2004, on a fondé l'association Modernité médiévale, et je travaille depuis ma thèse sur les ensembles romanesques, les cycles et séries dans les littératures de genre contemporaines, et par la force des choses de plus en plus en science-fiction et en fantasy, puisque c'est là qui sont les plus nombreux. J'ai consacré un colloque en 2006 hein, au merveilleux mode médiéval en fantasy dont les actes sont parus chez Bragelonne, et un petit bouquin de synthèse dans la collection 50 questions chez Klingsic sur la fantasy. Voilà, et sans plus attendre, je vais présenter mes invités qui sont quand même plus intéressants aujourd'hui. Alors, Francis Berthelot, ici, né en 1946. Hein. Ah, c'est toi qui l'as dit, hein. Moi, quand on me disait pas, je ne marquais rien.
Belle antiquité des années 40, on dit.
Juste après la guerre, rendez-vous compte. Il a longtemps été chercheur au CNRS, hein, donc avec d'abord plusieurs années consacrées à la biochimie, et ensuite ses recherches se sont tournées un peu plus dans un domaine qui l'intéressait, c'est-à-dire la littérature, et plus particulièrement les transfictions, c'est-à-dire les ouvrages situés à la frontière de la science-fiction et de la littérature générale, auxquels il a consacré l'ouvrage Bibliothèque de l'Entremonde, paru chez Folio SF en 2005. Et il a pris sa retraite avec grand plaisir au début de l'année scolaire 2007. En tant qu'écrivain, donc, puisque c'est aussi surtout son activité, il a publié 4 romans de science-fiction ou de fantasy, en fait. Hein. Tu marques science-fiction, mais ça va, la question se pose. Dans des genres aussi différents que le space opéra, hein, il a commencé par le space op avec La Lune Noire d'Orion, et la high fantasy avec Canaor, hein, ou la psychofiction. Ça, hein, on voit déjà qu'il est dans des mélanges de genres assez originaux. Puis, il est entré dans le mainstream, hein, donc dans la littérature générale, en rejoignant le groupe de la nouvelle fiction. Et il pratique à présent ce qu'il qualifie de merveilleux noir, relevant des transfictions. Donc on en trouve l'illustration aussi bien dans ses recueils de nouvelles, comme La boîte à chimères, hein, paru en 2000 chez Fayard, ou Forêt secrète, au Bélial en 2004, que donc dans son cycle romanesque Le rêve du démiurge, qui est un vaste ensemble, hein, qui couvre une bonne part de son œuvre, et dont 7 volumes sur 9 hein, sont déjà parus à partir de 1994, et jusqu'en 2008. Hein, d'abord chez De Noël, L'ombre d'un soldat et Le jongleur interrompu, Mélusat et le jeu du cormoran chez Fayard, Nuit de colère chez Flammarion, et enfin au Bélial, Hadès Palace et Le petit cabaret des morts, le plus récent. Entre autres récompenses, Francis a reçu le prix Masterton dans les 2 catégories romans et nouvelles, le grand prix de l'imaginaire dans les 4 catégories, nouvelles, romans, essais et jeunesse, et une thèse hein, lui-même actuellement consacrée. Eh oui, oui, en cours. Bah oui, oui, voyons.
Oui, mais il n'y a pas qu'à moi, il y a Clive Barker aussi.
Ouais, c'est Francis Berthelot et Clive Barker. Donc voilà, une reconnaissance universitaire étant voie royale est bien ouverte. Mélanie Fazzi, qui est à côté de lui, partage son temps entre la traduction d'auteurs anglophones, parmi lesquels Graham Joyce, Poppy Z. Bright ou encore Kelly Armstrong. On retrouvera demain dans la table ronde consacrée à la traduction cette facette de son activité. Donc elle partage son temps entre la traduction et l'écriture, avec une nette préférence pour le genre fantastique et le format de la nouvelle. De ce fait, elle collabore fréquemment à des anthologies, j'en cite quelques-unes, en 2007, Procréation, hein, chez Glyph Imaginaire, et elle a reçu le prix Merlin pour une de ses nouvelles, Mathilda. Elle en a tiré à ce jour 2 recueils, Serpentine et Notre-Dame aux écailles, reparus chez Bragelonne, et elle est également l'auteur de 2 romans également chez Bragelonne, 3 Pépins du fruit des morts et Arlis des forains. 3 Pépins du fruit des morts, c'est chez Nestinienen. pas reparu celui-là, j'avais tous marqué reparu, donc en collection L'Ombre, ceux qui sont chez Bragelonne, la collection davantage orientée vers le fantastique. Elle est inspirée à la fois par des atmosphères musicales et cinématographiques, et elle est reconnue, hein, pour, à mon avis en tout cas, pour son excellence justement à distiller ces atmosphères et à nous attacher en quelques pages à des personnages d'enfants, hein, ou de jeunes femmes qui hantent, hein, littéralement ces nouvelles. Jérôme Noirez, j'ai fait par ordre alphabétique, hein, donc je passe Pierre Pevel. Jérôme est musicien, musicologue et écrivain. Il a commencé par publier plusieurs nouvelles, hein, notamment dans la belle collection Défunte, emblématique, hein, de chez l'Oxymore, hein, collection d'anthologie. Puis 4 romans pour adultes, hein, aux fortunes diverses, nous dit-il, hein, mais toujours remarqué pour l'originalité des imaginaires qu'il déploie, puisqu'il convoque tour à tour Rabelais, Céline ou Lewis Carroll. Donc la trilogie Féerie pour les ténèbres, hein, chez Nestivenen, hein, dont il nous avait présenté à l'occasion donc du colloque d'Arras sur la fantaisie les inspirations du côté d'un merveilleux médiéval discordant, hein, celui des farces et sottises de la littérature carnavalesque, de la fleur inverse des troubadours. Et en 2007, chez De Noël Lune d'encre, il a fait paraître Le son du monde fluctuant, qui est une uchronie victorienne qui croise le pays des morts sous le patronage bégayant de Lewis Carroll. Il est également l'auteur d'une encyclopédie des fantômes et des fantasmes, et nous dit-il, il sévit à présent en littérature jeunesse, donc après Le chemin des ombres, collection Royaume perdu de Mango Jeunesse. Sa passion pour la culture japonaise s'exprime dans son un ouvrage Fleurs de dragon aux éditions Gulfstream. C'est un beau succès et la suite intitulée Le Shogun de l'ombre sortira en septembre. Hein, donc ces 3 derniers ouvrages, parce que Le chemin des ombres aussi, c'était dans un imaginaire de Japon antique. Et enfin, Pierre Pevel, donc né en 1968, vit à Nancy. C'est un grand admirateur d'Alexandre Dumas père, hein, donc c'est une autre voie d'inspiration, hein, par le roman d'aventure classique. Il a choisi en 1996 de se consacrer à l'écriture. Et il a d'abord signé sous le pseudonyme de Pierre-Jacques plusieurs romans de fantasy aux éditions du Comédon. Et c'est à partir de 2001 qu'il publie sous son nom, hein, dont auquel il ne renoncera plus, Les Ombres de Wildstadt d'abord, hein, un roman fantastico-historique, hein, qui sera couronné par le prestigieux Grand Prix de l'Imaginaire et qui est le premier volet de la trilogie Wildstadt paru au Fleuve Noir. Ensuite sont venus les 2 volets d'Ambremer, parus aux éditions du Pré-Auclair, qui explorent donc, quant à eux, une France de la belle époque alternative et magique. Et Pierre Pevel donc, a rejoint les éditions Bragelonne en 2007 pour publier Les Lames du Cardinal, premier roman de fantasy français, de fantasy adulte, à être traduit en anglais chez Gollancz. Donc il nous intéresse aussi dans cette perspective de la manière dont la fantaisie française peut à son tour conquérir le monde anglophone. Et donc un deuxième roman situé dans la lignée de cet univers, donc de Cap et d'Épée fantastique, intitulé L'Alchimiste des Ombres, doit sortir ce mois-ci.
Le 18.
Voilà, donc la semaine prochaine, le deuxième volume, hein, de ce cycle lancé par les Lames du Cardinal, hein, et récompensé par un très beau succès. Donc, la problématique de cette table ronde que je vais peut-être animer avec moins de brio que Stéphane Marsan, c'est l'idée que, en fait, la distinction avec la première catégorie d'auteurs qu'on a vus et qu'on avait classés dans le cœur du genre, elle est en réalité très mince, hein, parce que il n'existe que peu d'auteurs français hein, qui, à part peut-être Charlotte et Nathalie, qui justement s'intéressent vraiment à la recréation autour des mythes et du folklore, d'auteurs français qui s'approprient véritablement les codes principaux de la fantasy. On a ici, donc, autour de nous, des auteurs qui se sont très vite éloignés de ces codes de la fantasy épique, hein, dans le cas de Francis ou de Jérôme, hein, ou alors qui ont d'emblée choisi de faire autre chose, s'inscrivant comme Mélanie Fazzi dans un genre ancien mais mal identifié aujourd'hui qui est le fantastique, ou comme Pierre Pevel de proposer des croisements inédits avec cette nouvelle catégorie de la fantaisie historique qu'il est a priori un des premiers à avoir développé me semble-t-il en France et qui est aujourd'hui assez pratiqué hein, qui est une des grandes voies de renouvellement du genre. Xavier Mauméjean qui devait être parmi nous aujourd'hui et qui n'a, pour des raisons pas professionnelles, pas pu en être, aurait illustré hein, cette même tendance au croisement d'univers. Donc, pour commencer, dans quel genre diriez-vous que vous écrivez si vous écrivez dans un genre précis, identifié, et comment se fait-il que la fantasy se retrouve plus ou moins être le domaine auquel on vous identifie aujourd'hui, où on vous classe? Je vais peut-être commencer par Jérôme, parce que pour Francis, c'est encore plus difficile comme question.
Oui, parce que je ne crois pas qu'on me classe dans la fantasy.
ou alors explique ton parcours de la fantaisie, du cœur du genre à quelque chose de plus déviant.
De la déviance.
Voilà.
non, je ne sais pas ce que c'est que les genres, quoi, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Ce sont les éditeurs et les libraires qui s'occupent de ça. Les auteurs, la plupart des auteurs s'en foutent complètement, enfin moi particulièrement, quoi. Ouais. Voilà. Je peux guère en dire plus sur le sujet du genre.
Voilà. Disons que Ferry pour les ténèbres, c'était davantage quelque chose qu'on pouvait identifier, même en dépit de l'originalité forte. Et puis le son du monde fluctuant ressemble.
Oui, d'ailleurs, j'ai inventé une terminologie de genre pour Ferry pour les ténèbres, mais c'était un petit peu pour faire joli aussi. Parce qu'il n'y avait pas de raison que ce soit seulement Francis Berthelot qui invente des noms de genre. Et j'ai parlé moi d'imaginaire de féerie discordante ou d'imaginaire discordant. En général, enfin, féerie pour les ténèbres, ça se rattachait moi à la tradition que j'appelle le réalisme grotesque, qui est celui de Rabelais, quoi. Et ce sont les choses qui m'intéressent et qui me parlent. Alors, évidemment, on est très très loin là des préoccupations, disons, basiques de la fantaisie. Moi, je ramène tout. Autant je n'arrive pas à penser en termes de genre, j'arrive à penser en termes d'esthétique un peu picturale, quoi. L'esthétique picturale de la fantaisie n'est pas mienne, elle n'a jamais été mienne. C'est-à-dire les pré-raphaélites et les chromos de toilette, ça ne m'a jamais parlé. Donc, je préfère Bruegel et Bosch, quoi, à ces peintres-là. Voilà.
Ils sont aussi d'un... du côté d'un grotesque mais donc moi je trouve que ton œuvre reprend et décale hein, comme c'est le cas du steampunk pour le son du monde fluctuant des univers de genre préexistants tout de même.
Oui, sans doute, mais assez innocemment, parce que j'ai pas été très grand lecteur de fantasy. On va pas réattaquer Tolkien, ça va être un peu lourd. Tolkien, moi j'aime les descriptions de paysages en fait chez Tolkien, c'est tout. Alors quand il arrête de décrire des paysages, ça m'intéresse plus beaucoup. Et j'aime beaucoup le premier tome parce qu'il y a des forêts, c'est champêtre, on respire. Mais le truc venait pas de la le point de départ venait pas du littéraire en fait. Le point de départ, comme je suis musicien, ce qui a été dit, est médiéviste. En tant que musicien, je suis confronté de temps en temps à quelque chose qui est absolument épouvantable, auquel je ne participe pas, mais qui me permet de grogner dans mon coin. Ce sont les fêtes médiévales, c'est une pure horreur. Et l'image parfaitement grotesque du musicien dans la fête médiévale, vous savez, c'est le type qui est habillé en pseudo. pseudo-troubadour, avec des vêtements en acrylique, 100% acrylique, et qui cache difficilement sous sa manche épaisse une montre à quartz, et puis qui, au milieu d'un morceau, va chercher dans sa poche, parce qu'ils mettent des poches, un téléphone portable. Et cette image et ce décalage pathétique, hein, était au cœur, quoi, de ce que je voulais faire dans Ferry pour les ténèbres. Donc évidemment, il y a la dimension fantasy déformée et où j'appuie sur les aspects les plus grotesques du genre. Ouais. Mais c'était pas une volonté non plus nécessairement de démonter le genre, parce que pour démonter quelque chose, il faut très bien le connaître, et ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc j'ai fait ça en dilettante, quoi. C'est du démontage de dilettante.
Merci, Jérôme. Pierre, alors par contre, c'est davantage de la fantaisie, on peut le dire ?
Très probablement, le résultat, oui, c'est ça. Moi, j'aime bien les gens, ne serait-ce qu'en tant qu'acheteur, j'aime bien ça. J'aime bien qu'il y ait sur l'étiquette ce qu'il y a dans la boîte, quoi. C'est plus facile. Et pour les livres, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est utile. Et puis, je pense que les genres peuvent avoir une légitimité, des structures qui leur sont propres, des thèmes, etc. Il se trouve que moi, j'ai un véritable amour de certains genres. Alors, ça va être, par exemple, le roman de feuilletoniste fin 19e, début 20e, ou alors le KPDP, ou l'horreur, ou que sais-je. Et que souvent, j'utilise des éléments qui relèvent du merveilleux, du fantastique ou de l'horreur pour revisiter ces genres. Avec Ambremer, c'est vraiment... Moi, j'aimais bien les romans d'Arsène avec Arsène Lupin. J'aimais bien les séries des Brigades du Tigre. Et ben, c'est l'occasion de mettre 2-3 fées dans ce décor-là me permet de revisiter et de faire ça un peu à ma sauce. Mais c'est essentiellement revisiter des genres que j'aime bien faire. Évidemment, le roman de KPDP avec Willstatt dans un premier temps, et puis la série des Lames du Cardinal. Là, encore une fois, tout à l'heure, tu rappelais que je suis amateur d'Alexandre Dumas, c'est plus que vrai. Et la fantaisie, finalement, est le résultat de cette démarche. Mais c'est pas tellement une intention. Je me dis pas, tiens, je vais écrire un roman de fantaisie. Je revisite des genres en y introduisant des éléments qui relèvent, comme je l'ai dit, du merveilleux, de l'horreur, du fantastique, peu importe. Et au résultat, ça donne de la fantaisie dite historique. J'en suis ravi, je suis très bien où je suis, dans les rayons où on me vend et chez l'éditeur qui me publie. Mais c'est une incidence, quoi. C'est pas une démarche volontaire.
Et tu viens du jeu aussi, non ? Là, aussi une influence.
Sans doute, oui, le jeu de rôle, oui.
Ouais.
Je ne sais pas exactement.
Faire le lien avec la précédente table ronde, hein. Pierre était vraiment un des auteurs, on ne savait pas où mettre.
Je suis désolé d'être embarrassant. je vous promets de mieux me tenir à l'avenir. Oui, pour le jeu de rôle. Bon, statistiquement, on est quand même beaucoup ouais, d'auteurs de ma génération à être passés par là. Faut dire qu'à un moment, c'était commode pour gagner un peu d'argent, le jeu de rôle, quoi. C'est avec de l'imagination, un peu de bonne volonté, et puis on arrivait finalement à gagner 3 sous à l'âge qu'on avait à l'époque, c'était toujours bienvenu. Je crois que d'un autre côté, j'ai quand même découvert la fantasy, j'en ai lu avant de jouer, et encore plus avant de travailler dans ce milieu du jeu de rôle. Donc de toute façon, ça reste quand même une expérience littéraire. J'ai lu les Elric le Nécromancien, Tolkien, Fritz Leiber, tout ça dans ma jeune adolescence. C'est ensuite seulement que j'ai travaillé dans le jeu de rôle, qui se trouvait exploiter particulièrement cet univers, la fantasy au sens très très large, quoi. Donc c'était bien commode parce que je connaissais un peu, c'était mon goût. Voilà. Ceci dit, il y a quand même pas mal de gens qui ont travaillé, ou du moins qui ont été maîtres de jeu, scénaristes dans le jeu de rôle, qui ont ensuite écrit de très très mauvais romans. Vous avez le droit de me considérer dans cette catégorie-là, mais ça, on peut prendre de très très mauvais tics avec le jeu de rôle, quoi. Il y a le risque de la partie racontée, c'est évident, qui ne passe absolument pas. La fréquence des combats dans une partie de jeu de rôle est énorme. Si on en met autant dans un bouquin, c'est insupportable. Et puis une bonne partie de jeu de rôle, c'est quand tout ce qui est intéressant dans l'histoire arrive aux joueurs, quoi. Heureusement, on n'est pas limité par ça dans le roman. Il peut arriver des choses très intéressantes à d'autres personnes que les héros, quoi. On peut prendre de très 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 mauvais tics et à la limite je me demande même si c'est un bon départ quoi.
Mélanie, tu joues aussi, non?
Au jeu de rôle, non?
Ouais, non, jeu vidéo.
Jeu vidéo un petit peu, mais sans incidence sur l'écriture, je dirais.
C'est assez clair, effectivement, qu'il n'y a pas une influence directe. Donc, toi, tu présentes le cas particulier de quelqu'un qui connaît extrêmement bien le genre de la fantasy au sens large, mais en tant que traductrice, en tant que collaboratrice chez Bragelonne, et qui choisit la voie originale aujourd'hui de assez exceptionnelle de la nouvelle fantastique.
Ben, en fait, ça s'est pas tellement passé comme ça parce que ça laisserait présenté comme ça laisserait supposer qu'il y a une espèce de démarche qui serait d'opposition, de dire je vais essayer de trouver autre chose que la fantasy et essayer de me démarquer, alors qu'en réalité, il s'est passé tout à fait autre chose, qui est que simplement, vers 15-16 ans, je me suis découvert un intérêt pour le fantastique. J'ai lu Stephen King, j'ai lu d'autres auteurs et j'ai adoré ça. Et ben, par mimétisme, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on commence par écrire ce qu'on est en train de lire. Et je m'y suis trouvée chez moi, comme on disait tout à l'heure dans la première table ronde. Et j'en ai écrit, j'ai eu l'occasion d'en publier, et je ne me suis pas rendu compte, en fait, qu'au moment où j'allais arriver avec ces textes de fantastique à publier, le genre n'existerait plus quasiment. J'arrivais dans une configuration en fait de l'édition où ce genre-là ne se publiait plus. Et je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça quand j'ai écrit ni quand j'ai publié mes textes. C'est simplement, ben, ça m'intéresse, j'ai envie d'écrire ça. Je sais écrire ça, je vais essayer. Et il se trouve que je suis arrivée... Je ne sais pas si... Je me suis fait la réflexion à un moment donné, je suis arrivée 10 ans trop tard, mais je ne sais pas si la situation était vraiment différente 10 ans plus tôt. Donc à partir de là, j'arrive dans cette configuration, j'ai deux choix. Soit je regarde un peu ce qui se publie et j'essaie de dégager des tendances et je me dis que je vais essayer de m'y conformer. Mais c'est pas quelque chose que je sais faire. J'ai l'impression que je sais écrire une seule chose, en fait. J'ai mon truc, j'ai un univers, j'ai ça. Qui, en plus, est quelque chose d'extrêmement classique. Pour moi, c'est le fantastique qui se pratiquait déjà chez Maupassant, où c'est vraiment la droite lignée. On est dans le monde contemporain et à un moment donné, quelque chose bascule. Il y a cette espèce de vertige, de mystère, ce basculement. Et les personnages sont placés face à quelque chose qu'ils ne vont pas comprendre et qui va des fois leur révéler des choses sur eux-mêmes. Enfin, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça existe depuis extrêmement longtemps. Simplement, je suis arrivée à un moment où ça ne se faisait plus, donc j'ai ce choix. Est-ce que j'essaie d'écrire autre chose pour avoir plus de chances de publier, ou est-ce que je continue et j'essaie de passer? À un moment donné, je vais passer dans les failles et je me retrouve régulièrement à devoir parler sur la fantaisie, alors que de mon point de vue, justement, c'est pas ce que je fais. Alors, je ne sais pas si la définition du genre a énormément évolué depuis et c'est moi qui ne m'y suis pas rendu compte, ou s'il y a juste une espèce de mouvement marketing qui est, bon, le fantastique, on ne sait pas quoi en faire. Donc on va essayer de le rattacher petit à petit à la fantaisie, parce que sinon il se retrouve là et on ne sait vraiment pas quoi en faire.
Oui, c'est une vraie question. Où est passé le fantastique, hein?
J'arrive pas. Je pose vraiment la question, est-ce que il a été intégré dans ce genre qu'est la fantaisie et quelque part c'est moi qui n'ai pas vu évoluer les genres, ou est-ce qu'il y a encore que je trouve que depuis peut-être 2-3 ans, j'ai l'impression qu'on recommence à revendiquer un peu plus le nom de fantastique, qu'à un moment donné, on ne pouvait absolument pas plaquer sur un texte, sinon c'était... Dans les appels à texte, par exemple, on ne voit plus... On cherche de la fantaisie, mais jamais de fantastique. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, qu'on voyait il y a quelques années encore. Et j'ai l'impression qu'on commence... Il commence à y avoir quelques collections spécialisées fantastiques qui apparaissent, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est à nouveau en train d'évoluer, peut-être dans ce sens-là. Mais donc... Enfin, moi, j'étais en train de regarder l'intitulé quand j'ai vu dans quelle table ronde j'étais placée pour... Et en voyant aux marges du genre, je me suis fait la réflexion, maintenant j'ai pas l'impression, moi, d'être aux marges de la fantaisie, je suis au cœur du fantastique. Donc quelque part, la question n'est pas vraiment
là. Oui, Mélanie est une des... Bah, avec Graham Joyce, peut-être, des rares auteurs contemporains à faire du fantastique vraiment pur, dans le sens de nos définitions théoriques.
Je dirais qu'il y en a d'autres, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup qui s'y spécialisent, en fait. Et dans les auteurs qui sont arrivés de ma génération, on a vu beaucoup d'auteurs qui arrivaient à jongler entre les genres, c'est quelque chose que moi je ne sais pas faire. Qui pose peut-être la question que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide qu'on se spécialise dans une voie qui pour l'instant n'est pas majoritaire, ou est-ce qu'on essaie un petit peu de se glisser, de s'adapter à ce que publient les éditeurs, en fait?
Effectivement, un retour aussi du fantastique par le biais du gothique, des histoires de vampires qui reviennent beaucoup, et donc par le dark, quoi, parce qu'on a appelé à un moment la dark fantasy, qui était une façon de labeller l'ex-fantastique horreur, hein, parce que c'est vraiment ces questions de label, et qui a permis, avec un certain nombre de succès récents, de pouvoir réinvestir quelque chose qui s'appelle le fantastique, parce que tous les romans de Sir Cédric ou
j'étais en train de penser, il y a un phénomène aussi en ce moment, j'y pense parce que je traduis un des auteurs qui s'y rattache, c'est ce qu'on appelle la bitlit, en fait.
Oui,
c'est
tout à fait.
Qui est un fantastique.
Bah,
Kelly Armstrong, plus ou moins dessiné à un public féminin. Je traduis donc Kelly Armstrong chez Bragelonne qui s'y rattache. C'est clairement du fantastique, mais c'est un courant qui est en train d'émerger. Là maintenant, je ne sais pas si on y colle le nom de fantastique ou pas, parce que je vois tout le temps ce terme de bitlit, en fait.
Bah, ça reprend, ouais, ça reprend les vampires, les loups-garous, etc. Donc un espèce de personnel identifié à du fantastique, mais pas à du fantastique classique, plus à du fantastique américain, pulp fiction.
Destiné à un public féminin qui aurait 20 ou 30 ans actuellement. Enfin, il y a un peu un cœur de cible comme ça.
Ouais. Oui, c'est justement, c'est une façon de réinvestir l'érotisme dont on parlait. Il est là de manière extrêmement extrêmement centrale dans ces histoires d'amour. Globalement, c'est ça, c'est une jeune femme amoureuse d'un vampire ou elle-même étant loup-garou, chez Kelly Armstrong. Et donc c'est
pas de bol quand même.
Non,
c'est pas chez Kelly Armstrong, c'est les loups-garous restent entre eux. Ils ont effectivement une sexualité qui est très très marquée, qui est dans les livres, plus particulièrement sur les loups-garous, parce qu'il y a différents personnages. Enfin, je referme la parenthèse.
Et Francis, alors est-ce que tu fais une différence entre merveilleux et fantastique, importante, et comment tu en es venu à d'abord illustrer les plus grands genres avant de choisir et de théoriser cette voie des transfictions?
Avant de répondre à ta question, je vais répondre à la question qu'a posée Mélanie tout à l'heure, enfin que s'est posée Mélanie tout à l'heure, savoir si elle est arrivée 10 ans trop tard. Je te réponds clairement, non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Parce que dans les années 80, il y avait deux genres dont on parlait, et la grande question qui était la science-fiction et le fantastique, et la grande question qu'on se posait, et le seul fait de la poser faisait hurler de rire tout le monde, c'est quelle est la différence entre la science-fiction et le fantastique. La fantasy, qu'on appelait à l'époque heroic fantasy, c'était caca boudin, personne ne voulait en entendre parler, mais malgré tout, le fantastique, c'était pas du tout tendance à l'époque. Hein. La science-fiction, c'était le genre royal, le fantastique, personne n'en faisait. À la fin des années 80 ou au début des années 90, je ne sais plus très bien, Jacques Chambon a créé la collection Présence du fantastique chez De Noël dans l'idée de redonner une impulsion au fantastique. Donc ça a commencé à reprendre à ce moment-là. Mais avant c'était vraiment un genre complètement endormi. Bon, alors maintenant pour répondre à la question d'Anne, quand j'ai décidé, maintenant que je suis grand, je veux être écrivain, je me suis d'abord dit, puisque j'avais lu pas mal de science-fiction, tout ça, les années précédentes, alors que j'ai plutôt une formation classique, je me suis dit, je vais faire un space op. Voilà, bon, alors donc, mon premier roman, j'ai fait un space opéra, les planètes, les machins, tout ça. Une fois que c'était fini, je me suis dit, maintenant j'ai fait ça, je sais faire, donc comme disait Fabrice Collin, j'ai pas envie de le faire une deuxième fois. Donc, je vais faire comme les auteurs américains qui font un coup un mélo, un coup un western, un coup une comédie musicale. L'autre possibilité, c'est l'heroic fantasy. Donc, j'ai fait une heroic fantasy qui est parue en 83, justement à l'époque où c'était très mal vu. Très, très mal vu, genre Berk. Mais bon, je l'ai faite, et puis voilà, d'ailleurs, ça s'est bien vendu et tout ça. Donc, pourquoi pas. Et alors, ayant fait ces deux choses, je suis arrivé à la question, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Et la prise de conscience, elle s'est passée dans ma chambre au Novotel de Metz, pendant le festival de Metz, et c'est une prise de conscience très douloureuse, qui était, je ne peux plus écrire de roman d'aventure. C'est terminé, je ne peux pas aller plus loin, si je reste dans le roman d'aventure, il faut que je fasse autre chose. Donc, j'ai renoncé à ça, là-dessus j'ai fait une dépression pour des raisons qui n'avaient rien à voir. Et j'ai essayé de recoller les morceaux dans un bouquin qui, après un certain nombre de formes plus ou moins chaotiques, est devenu La ville au fond de l'œil, que j'ai baptisé Psychofiction parce que je trouvais que ça faisait chic. Et après, j'ai encore fait un roman qui était Rivage des Intouchables, alors qu'on peut ranger dans la catégorie Planète Opéra, qui rassemblait un peu toutes les expériences diverses que j'avais faites dans les trois précédentes. Bon. Et là, je me suis dit, ça y est, je ne peux pas aller plus loin. D'abord, j'avais eu le GPI, donc qu'est-ce qu'on peut faire après le GPI ? Il y a un bon cours. Donc, je suis passé en Lead-Gen. Et donc j'ai écrit un premier roman réaliste, un deuxième roman réaliste, avec un petit fantastique sous-jacent, puis pour diverses raisons, je leur ai donné une suite commune, et là, le surnaturel est revenu, parce qu'il n'en pouvait plus d'être resté dans le placard pendant deux romans. Et alors, a commencé à se fabriquer toute seule une espèce de saga, c'était aussi parce qu'à l'époque, je suivais Dynastie et ce genre de choses avec beaucoup de passion. Donc je m'attachais à mes personnages, et puis en plus ça m'évitait de faire une déprime chaque fois que je les quittais, donc je les reprenais, je pouvais les ressusciter, tout ça dans un autre roman. Donc c'était très bien, ça fait une espèce de saga, ou le fantastique, ou le surnaturel, disons le surnaturel, a pris une importance de plus en plus grande, mais j'appelle ça plutôt merveilleux noir que fantastique. Pour quelle raison ? En gros, parce que dans la science-fiction, on est confronté au surnaturel, mais on lui donne une explication scientifique. Hein, c'est très schématique ce que je dis. Hein. Dans le fantastique, on est confronté au surnaturel et on ne sait pas si ça existe ou pas, si on hallucine ou si... Bon, voilà. Et dans le merveilleux, on est confronté au surnaturel, mais là, ça va de soi, c'est de la magie et on ne se pose pas la question. Bon, cela dit, que je ne veux pas appeler ce que j'écris du merveilleux parce que c'est vraiment pas merveilleux. Donc,
j'ai dit, c'est pas du conte de fées, quoi.
C'est pas du conte de fées, non, pas du tout. Donc, alors, c'est peut-être ce qu'on appelle dark fantasy, d'ailleurs, je ne sais pas très bien, ou fantasy urbaine. Donc, moi, j'appelle ça merveilleux et noir, et puis peu importe comment on appelle ça, on s'en fout. Ou réalisme magique, si c'est une autre approche. Est-ce que j'ai fini de répondre ou est-ce que je dois développer ?
Oui,
on a oublié la question en fait.
Oui, j'ai totalement oublié la question, voilà. Oui.
Et les transfictions,
transfictions, voilà.
Alors.
Je reviens aux années 80. Aux années 80, j'ai commis un péché gravissime. J'ai fait partie du groupe Limite. Le groupe Limite, c'était un groupe de Salintello qui voulait faire de la littérature en science-fiction et qui rejetait les codes du roman d'aventure à l'américaine. Donc. On s'est mis tout le monde à dos, on a sorti un recueil de nouvelles raisonnablement illisibles, et puis on a volé en éclats, et chacun a continué, il y a eu un certain nombre de tempêtes et tout ça, chacun a continué sa route, Volodine est passé en littérature générale, moi aussi, Barbéry a continué, lui il est passé à la télé pendant un moment, puis il est revenu à l'ASF, les autres ont plus ou moins arrêté d'écrire ou repris, enfin bon. Et étant passé en Lead-Gen, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, ayant eu l'expérience relativement catastrophique d'un groupe, je me suis dit, continuons, rencontrons un autre groupe, tiens. Alors j'ai rencontré des gens qui étaient des auteurs de littérature générale, mais qui lorgnaient fortement vers les littératures d'imaginaire, ça s'appelait la nouvelle fiction, donc j'ai fait copain avec eux, ils m'ont intégré dans leur rang. Puis le temps a passé, j'ai changé de discipline au CNRS parce que c'était vraiment plus tenable de faire de la biologie moléculaire. Donc je suis passé en théorie littéraire et puis j'ai été amené à essayer de définir théoriquement ce qu'était la nouvelle fiction. J'ai donné une définition qui ne correspondait pas du tout à ce que les théoriciens de la nouvelle fiction ressentaient. Donc je me suis dit, en gros, ce que j'ai dit, c'est ce qui est à la frontière entre la Lead-Gen et les littératures d'imaginaire. Ils m'ont dit, c'est pas ça du tout. J'ai dit, d'accord, mais quand même, cette frontière, elle existe. Alors, je vais lui donner un autre nom, puis je vais étudier ça. Alors, je vais appeler ça fiction transgressive, ce qui était un petit peu indigeste. Et puis, un jour, j'ai écrit un article en anglais où j'ai appelé ça transgressive fictions. Et je lui ai dit, si je raccourcissais, ça ferait transfiction. Super. Bon, évidemment, aux États-Unis, transfiction, ça désigne les transfictions sur les transsexuels. Sur les fictions sur les transsexuels. Mais de toute façon, le point commun, c'est qu'on est dans les transgenres, dans les deux cas de figure. Donc, OK, pas de problème. Donc, j'ai appelé ça transfiction. Voilà.
Et est-ce qu'il te semble que c'est, parce que cette posture un peu justement entre les genres, pas forcément entre la littérature générale et les littératures de l'imaginaire, mais au sein de la littérature de l'imaginaire, justement entre ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on voit maintenant, est-ce que ça te semble quelque chose de particulièrement développé dans le milieu français aujourd'hui? Parce que c'est mon impression.
Ah oui, tout à fait, oui. Mais je ne sais pas si c'est spécifique au milieu français, ça je peux pas dire, je ne connais pas assez le reste, mais c'est très très clair. C'est ce que Francis Valéry a appelé l'esthétique de la fusion. Hein. C'est le fait que maintenant on met du fantastique dans le polar, on met du merveilleux dans la science-fiction. Enfin, chacun fait sa tambouille, hein. Et tout le monde est content en fait. Donc ouais. c'est très productif. Ça ouvre les imaginaires. Ça permet la circulation des fantasmes. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est spécifique au champ français actuel, mais c'est clair que ça a lieu, ça c'est sûr.
Oui, ben disons que moi, ce que je constate, c'est que la fantaisie épique, classique, elle est illustrée quasiment uniquement par des anglo-américains.
Oh bah tu vas faire plaisir à Lovenbrück si tu dis ça.
Voilà, oui, mais Lovenbrück, il a quitté, il n'écrit plus de fantaisie.
Ah bon ?
Il écrit du thriller, des thrillers ésotériques, historiques. C'était un moment de sa production, et à part justement Lovenbrück, Grimbert, Gabory, dont on n'a plus tellement de nouvelles non plus, il y a eu très peu de d'auteurs français qui faisaient vraiment ça. Quand j'ai justement voulu en chercher pour ces tables rondes, je me suis dit, mais ils font tous de la fantaisie au sens large, une espèce d'extension du domaine de la fantaisie, donc qui a absorbé au passage le fantastique, et puis qui privilégie des mixages, des collages intertextuels d'époque qui sont illustrés par Jérôme et Pierre, auxquels du coup je vais en profiter pour repasser la parole. Quels sont pour vous les personnages historiques ou les époques ou les univers qui se prêtent à ce qu'on écrive du merveilleux dedans, quoi, puisqu'il ne faut pas prononcer le mot de fantaisie.
On prononce ce qu'on veut. Là.
Est-ce que c'est la frontière entre peut-être roman historique et merveilleux qui est importante, puisqu'on a vu que aussi ce matin il y avait plusieurs auteurs qui passaient de la fantaisie au roman historique, ou alors qui faisaient du roman historique fantastique. Est-ce que c'est cette frontière entre documentation et imagination qui est importante ?
Hein ? Non, j'étais juste en train de penser que je ne remercierai jamais assez Francis Berthelot d'avoir inventé le terme transfictionnel que j'utilise à toutes les sauces pour fermer le bec des bibliothécaires qui me demandent « Mais alors, qu'est-ce que vous faites ?» C'est du transfictionnel. Et je dis « Lisez d'ailleurs l'ouvrage très intéressant de... »
Je ne remercierai jamais assez, Jérôme, pour la pub qu'il fait.
J'étais quand même assuré à peu près 2000 ventes, je pense.
C'est merveilleux.
En poche. Oui, le passage au roman historique, moi je l'ai opéré en écrivant pour la jeunesse, historique pur, même si je joue toujours à la limite là et aussi du fantastique, mais moi j'aime me documenter, c'est fun la documentation, c'est plaisant. Donc il y a un côté ludique dans l'écriture du roman historique, parce que c'est amusant de se documenter et de travailler la documentation et de la malaxer aussi un petit peu, d'essayer d'en tirer une moelle, quelque chose d'autre. D'un autre côté, le contexte historique proprement dit ne m'intéresse pas, c'est-à-dire la grande histoire ne m'intéresse pas. De même que les mythes ne m'intéressent pas, les personnages importants, je ne les mettrai jamais en scène, par exemple, dans des romans historiques, ça ne m'intéresse pas. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est éventuellement les altérités dans un mode de vie, par exemple, dans un mode de pensée, ça m'intéresse dans l'historique. Voilà. Et alors, dans le merveilleux, donc le tien est noir, le mien est discordant, mais finalement, on est fait pour être à la même table. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait strictement ce qu'on veut. C'est très pratique, hein, tu l'as dit d'ailleurs, par rapport à la science-fiction, on est obligé de s'en tenir à un cadre rationnel, etc. Là, on fait strictement ce qu'on veut, et moi j'aime bien ça aussi. Par contre, ce qui n'est pas du tout le cas du roman historique, évidemment.
C'est ça.
Évidemment. Voilà, ouais. Là, on ne serait pas pris au sérieux. Alors, l'angoisse dans l'écriture du roman historique, l'angoisse permanente, c'est l'angoisse de l'anachronisme, mais que j'avais totalement évacué dans Féerie pour les ténèbres, puisque je joue là complètement et des anachronismes. Mais dans l'historique, c'est l'angoisse de l'anachronisme qui peut faire perdre le sommeil, hein, croyez-moi. Un truc, une anecdote. L'heure de l'anecdote. Dans Fleur d'Oragon, qui est un roman historique se déroulant une période bien précise du Japon médiéval, à la fin du 15e siècle, après une période qu'on appelle les guerres d'Onin, où la ville de Kyoto a été en partie détruite, un de mes personnages est musicien, et je l'avais fait jouer, je lui avais mis entre les mains un shamisen, un petit instrument à cordes, un instrument très populaire, et c'était très plaisant, c'était très facile de l'imaginer, ce personnage jouant du shamisen. Puis ça pouvait éventuellement parler au lectorat jeunesse, parce que le shamisen est utilisé en J-pop encore maintenant, quand on les électrifie. À la fin du bouquin, j'ouvre un petit coffret documentaire sur lequel je ne m'étais pas encore penché, et je découvre que le shamisen est arrivé au Japon que 50 ans après la période dans laquelle je situais l'action. Alors évidemment, 99% du lectorat s'en fout complètement, mais je me suis dit qu'il y aurait 1% de vicelard, et donc j'ai arraché des mains l'instrument en question, et à la place j'ai mis un biwa. Vous imaginez, ça change évidemment toute la structure narrative. Voilà, mais c'est le genre de truc auquel on se heurte quand on écrit du roman historique. Mais c'est assez plaisant. Il y a un côté jeu pour l'esprit un petit peu.
Alors c'est clairement ludique ce mélange chez Pierre Pevel. Comment tu l'envisages?
Je veux revenir en effet sur le plaisir de la documentation. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens également beaucoup. Pour deux raisons. D'une part, je me dis que de temps en temps, je m'arrête, je me dis, on me paye pour être un peu moins bête à la fin de la journée, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare.
Oui, les chercheurs connaissent bien ça.
<C'est>... j'attends toujours, je suis très très à l'affût de ça, de trouver dans ma doc, dans les nouveaux textes que je découvre, que je lis ou que j'étudie ou que je relis, l'élément qui va me donner l'impulsion, l'idée de quelque chose, quoi, d'une intrigue, d'un personnage.
C'est de là que ça vient.
C'est souvent de là que ça vient. Pour les lames du cardinal, les héros sont sous les ordres du cardinal de Richelieu, direct. Ce sont des barbouzes, grosso modo. Ça m'est venu de lecture d'événements historiques avérés. Un espion qu'on avait envoyé, qui était en Lorraine, indépendante à l'époque. On voulait savoir ce qu'il avait dans ses valises. Il y a deux, trois gars qui ont passé nuitamment la frontière, qui l'ont kidnappé, qui l'ont ramené en France, qui ont dit, bon, ben là, on t'arrête. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais qui était Ségus? Comment on les recrutait? Qui allait les voir? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Qu'est-ce qu'ils faisaient après? Et c'est de là que rapidement les idées viennent. Ça amène à se poser des questions et à les résoudre. Pour ce qui est du pourcentage, le 1% de Vislard, je pense qu'ils sont même moins nombreux que ça, mais par contre, on tombe toujours dessus.
C'est la loi de Murphy, ça.
Ah ouais, ouais, c'est... une des premières dédicaces que je fais, c'est après Les Ombres de Wildstadt. Donc ça se passe essentiellement en Rhénanie, au début de la guerre de 30 ans. Il y a un gars qui vient, qui me demande. Alors en général, les gens qui viennent pour faire des dédicaces, ils sont plutôt sympathiques, ils ont plutôt envie de nous voir. C'est rarement une épreuve, quoi. Le gars là, il vient, il me donne son livre, il me dit, ça vous a plu? Oui, j'aime beaucoup. Cependant, il y a quelque chose. Je dis, eh merde. Et là, le gars me dit, voilà, bon, il se trouve que j'ai commis l'erreur. Erreur, je ne sais même pas si c'en est une. Je décris un lit à un moment et j'ai mis des couvertures, des draps. Et le gars me dit, ils avaient des couettes. Alors là, j'ai pensé deux trucs. Le premier, c'est quand même, il faut que je tombe sur le spécialiste de la literie du début du XVIIe siècle dans la Rhénanie. Il y a un cursus. Si t'es prof, t'as beaucoup d'élèves à ton cours. Bref. Et puis, second truc que je me dis, et là pour ça. Le fait de faire du roman historique un peu décalé, moi, ça calme l'angoisse de l'anachronisme. Je dis, garçon, au-dessus de cette ville qui n'existe pas, où il y a le lit et pas de couette, il y a un dragon.
C'est quand même peut-être plus frappant.
On n'avait visiblement pas les mêmes priorités. Ceci dit, en même temps, je dois reconnaître que j'étais assez injuste parce que je mets un point d'honneur à être historiquement le plus exact possible. Donc, il avait parfaitement le droit, à supposer que ce soit vrai, mais enfin, de m'attaquer sur la literie, pourquoi pas. Je fais attention aux poignées de porte, j'aurais pu faire attention aux couvertures. Bon, d'accord, c'est ma faute. C'est vrai que pour quand je parle des lames du cardinal et que j'explique que le contexte historique est véritable, je dis tout est vrai sauf les dragons. Et souvent, je rajoute même en disant que j'ai lu beaucoup d'historiens, beaucoup de textes, et parmi tous les historiens que j'ai lus, il n'y en a pas un qui a indiqué que les dragons n'existaient pas à l'époque. Donc, et j'en ai lu des bons, hein, des savants et tout, dès qu'on ne lit plus. Et que ce soit Magne, Batifol, il n'y en a pas un qui m'a dit que les dragons n'existaient pas à l'époque. Dans ce cas-là.
On est libre. Il y a d'autres auteurs de la première table ronde, Fabrice Collin ou même Nathalie Do, qui se renseigne beaucoup sur les sources historiques des mythes. Donc, si vous voulez intervenir sur cette... Et Nicolas Cluzeau, qui est passer du côté du roman historique. Donc n'hésitez pas à mélanger un peu vos voix à celles des autres pour participer à un débat qui vous concerne aussi. Moi j'avais... Qui s'adressait à tout le monde aussi la question de l'écriture pour la jeunesse, qui est pratiquée par beaucoup. Ou quel public visez-vous? Bon, ça ne s'adresse pas à Francis.
Je vise le mien.
Oui. Est-ce que cette tendance de marquer aussi à écrire, non, soit du roman historique, soit à écrire pour la jeunesse, qui semble être des traits marquants de la génération d'auteurs français aujourd'hui, est-ce que c'est une nécessité économique, un intérêt profond, quelque chose de spontané quand on écrit dans ce genre lié à l'enfance, différentes questions comme ça, et pour le rapport entre roman historique et merveilleux, voilà aussi votre approche du rapport entre imagination et documentation. Plus tout ce qui est fantastique, merveilleux, qu'on a à peine abordé, mais je suis sûre que beaucoup de gens dans la salle ont des questions à poser, des éclairages à aborder pour Mélanie et Francis. On prolonge tout ça par.
Alors moi, c'est pas des questions, c'est pas deux questions, c'est deux précisions. La première, pour répondre à Francis, effectivement, les transfictions, ça existe ailleurs qu'en France. Alors quelques exemples. Le souffle du vent de Carlos Ruiz Zafón est un exemple de transfiction totale où il y a du fantastique, il y a du policier, il y a du mélodrame, il y a de tout. Et c'est un ouvrage qui a été sélectionné pour le Grand Prix de littérature policière américaine. C'est le cas aussi de Peter Hoeg, l'écrivain danois, avec Smila ou l'amour de la neige. C'est le cas aussi de Arthur Pérez Reverté avec le Club Dumas. Donc...
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. La question d'Anne, ça portait sur à l'intérieur des littératures de l'imaginaire, est-ce que ça existe ailleurs qu'en France? C'était pas sur les transfictions, c'était sur le mélange de genres à l'intérieur
de
l'imaginaire.
Parce qu'en France, tous les auteurs mélangent les genres ou illustrent alternativement plutôt du côté du fantastique.
C'est le cas de Jonathan Carroll aux États-Unis. C'est le cas de Jonathan Carroll aux États-Unis. C'est le cas d'un auteur comme Michael Chabon, qui est un auteur de littérature générale, mais qui vient d'avoir le Hugo pour un roman, le dernier roman publié en France.
Bah pour moi, Jonathan Carroll, c'est un auteur il fait des transfictions, clairement.
Ouais. Et puis la deuxième chose, Mélanie se posait la question du fantastique. Aux États-Unis, le terme fantasy, ça définit aussi, avant de définir ce petit bout de littérature qu'est la fantasy, ça définit aussi le fantastique. Et les universitaires américains différencient la low fantasy qui est le fantastique et la high fantasy qui est la fantasy proprement dite maintenant.
Il me semblait en fait qu'ils faisaient la distinction plus entre fantasy et horreur en fait.
Oui.
Je sais que j'ai eu des textes qui ont été publiés en anglais qui ont été repris dans une anthologie de textes fantasy et horreur et j'ai été classée en horreur clairement. Parce que je ne sais pas exactement comment ils font la distinction, mais pour moi, ce que nous on appelle le fantastique est englobé. se distingue entre fantasy et horreur. Donc c'est un peu difficile de faire un parallèle, en fait.
Bah, l'horreur, ça a été une, à partir du succès de Stephen King, la réincarnation des grands mythes fantastiques dans la littérature contemporaine américaine. Et puis ils ont tous divergé, les grands auteurs d'horreur, Peter Straub ou Stephen King, ils ont écrit autre chose.
Alors, personnellement, moi, ce qui m'intéresse dans la littérature du transgenre, et là je m'adresse peut-être à Francis Berthelot, c'est pas le fait que ce soit une spécialité française ou pas, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement en France, on n'est pas à l'heure actuelle de véritables auteurs qui ne fassent que de la fantaisie au sens propre du terme, comme on voit beaucoup d'auteurs qui le font encore et toujours dans la littérature anglo-saxonne. Par contre, là où je voudrais poser en fait je voudrais m'adresser à Pierre Pevel, c'est sur justement l'exactitude historique, parce que ça me rappelle moi une position de Tolkien qui justement s'était insurgé de voir que à propos de l'étude de certains mythes, il y avait une catégorie à l'époque où il écrivait, il y avait beaucoup de spécialistes qui ne voyaient que l'intérêt historique des mythes et leur illustration d'une culture ou d'une manière de vivre, et pas du tout l'intérêt littéraire de ceux-ci. Et alors je me demande, mais qu'en est-il aujourd'hui de la perception de la fantasy historique? Est-ce que finalement elle a pour but d'illustrer une culture et de se rapprocher de l'exactitude du roman historique, ou est-ce qu'elle a un intérêt, est-ce que parfois on va jusqu'à oublier l'intérêt qu'elle a en tant que roman?
Déjà, dans l'absolu, sur l'exactitude présupposée du roman historique, je pense que j'en invente moins que Christian Jacques et ses pharaoneries.
Bah, le roman historique posait déjà la question de roman plus histoire,
c'est parfois une question que je me pose quand même, c'est de me dire à partir de quel moment, est-ce que le terme même de roman historique ça a un sens, quoi. Si l'on met en scène des personnages dont l'historicité est avérée, ce qui est souvent le cas pour les rois de France par exemple, dont on discute peu la vérité, dans quelle mesure à partir de quelle mesure on ne cesse pas tout de suite de faire de l'histoire dès qu'on invente quoi que ce soit, quoi. À partir du moment, étant donné que je mets le curseur très 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 bas, je peux me permettre de mettre à peu près n'importe quoi après. Je trouve que, et d'ailleurs même des ouvrages d'historiens sont parfois obligés de faire un travail de recomposition, de recréation, là encore, selon les époques, selon les écoles, évidemment. Tout ça a bien évolué depuis le 19e siècle, mais je ne sais pas, quand on lit ce que pouvait se permettre de faire Michelet, par exemple, à l'heure actuelle, ça passerait moins, quoi, c'est évident. Maintenant, ça reste un des gars les plus agréables à lire dans son genre, quoi. Donc, je pense que le roman historique, finalement, c'est presque... Il y a toujours une part d'escroquerie, même dans l'intitulé. Avec moi, ça se voit bien, quoi. C'est vraiment évident. Maintenant, j'ai 2-3 pages dans mon dernier bouquin sur Louis XIII, où la manière dont je le fais réagir à certaines situations, ça me semble être parfaitement crédible. Enfin, de ce que j'ai pu lire sur le personnage, de ce que je peux savoir de lui, je trouve que c'est psychologiquement cohérent, quoi. Ou un des éléments qui détermine même toute l'intrigue, et pourtant il y a des histoires de dragons, etc., et d'invocations, etc., mais c'est la frustration de maternité d'Anne d'Autriche qui dirige, quoi. Donc on peut quand même partir de choses parfaitement, historiquement hardcore, et puis arriver à autre chose. J'extrapole toujours autant que faire se peut sur des choses extrêmement avérées, quoi. D'où ce que je disais tout à l'heure, le fait de lire, quand on fait Sadoc, de trouver quelque chose qui va être intéressant, quoi. C'est au bout d'un moment, c'est de se demander, ben, cette pauvre âme d'Autriche, elle a fait 2-3 fausses couches, on ne connaît même pas le nombre exact de fausses couches qu'elle fait, quoi. C'est quand même aberrant. Comment elle le vivait, elle, quoi. c'est comment elle a vécu ça. Et à partir de là, on peut faire un bouquin avec des dragons. C'est tout.
Et Jérôme, toi, tu fais de l'Uchronie quasiment dans la, quand tu réécris l'époque victorienne. C'est quelque chose de
voyons,
très différent de.
C'est pas tout à fait. Là encore, il y a une définition assez précise
oui,
de l'Uchronie. Nous avons une discussion avec Pierre Bordage là-dessus. Et donc l'Uchronie, vous savez, il faut un point de divergence. Enfin, voilà, c'est la norme, c'est le point de divergence historique. Et donc on réécrit l'histoire à partir du point de divergence. Moi, j'ai jamais procédé ainsi. Alors ça ressemblait effectivement, le son du monde fluctuant pouvait ressembler à une uchronie victorienne, mais comme c'est toujours, moi, les civilisations en elles-mêmes, c'est pareil. Voilà, m'intéresse pas. Moi, je regarde toujours par le petit bout de la lorgnette. Parce que ça me paraît plus littéraire d'abord, on est près des personnages, etc. Et dans le cas de Leçon du monde fluctuant, c'était là il faut Francis, tu inventeras un terme peut-être pour adéquat pour ça quoi. C'était l'idée de prendre le cadre très restreint d'un individu donné et d'en faire un principe de civilisation, c'est-à-dire le monde extrêmement petit de le monde fermé de clos de Charles Dodson, de Lewis Carroll dans son petit univers oxfordien devient la règle générale. Voilà. Donc c'est vraiment un autre procédé, une
hyper... Ça relève peut-être de la psychofiction.
Ok, génial. Ben j'en suis très heureux. J'avais depuis très longtemps envie de faire de la psychofiction c'est super.
Comme ça, je me sentirais moins seul.
Alors vous avez à la table quand même les deux auteurs, voilà. Les deux seuls auteurs à faire de la psychofiction.
C'est une école.
Oh, ben c'est genre c'est esquisse. Ça se reconfigure.
Et donc bientôt une anthologie.
Attends, il nous faut d'abord un trésorier, un secrétaire. Hein.
Alors j'ai quelques noms à te proposer.
Excusez-moi, moi je m'adresse aux auteurs qui publient et pour adultes et pour jeunesse. En fait, je voudrais savoir comment ils font pour, enfin, comment ils s'y prennent pour dire celui-là, ça va être un livre jeunesse, celui-là, ça va être un livre adulte. Est-ce que c'est par rapport à l'âge du héros, ou quelles sont les bases, enfin sur quoi il se base pour écrire, dire que c'est un roman jeunesse ou roman fantasy. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les romans jeunesse, et donc comment l'auteur s'y prend pour justement pour décrire le monde et pour. Je ne sais pas qui c'est qui pourrait répondre.
Je me sens visée, je ne sais pas.
Y a Jérôme Noret, Charlotte Bousquet, Fabrice Colin qui écrivent au moins, hein, qui écrivent en.
Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça.
Francis, oui.
Non, je le fais une fois.
Mais c'est vrai que ça m'a échappé. Ton...
Ouais.
C'était quoi
La maison brisée.
Quoi
La maison brisée.
La maison brisée. Je connais pas.
Les contraintes éditoriales, déjà, on peut pas quand même se permettre d'écrire la même chose pour, me semble-t-il, en tout cas, pour la jeunesse et pour adultes, même si, dans le fond, finalement, le message va être le même. Donc c'est essentiellement, pour mon expérience, ça va être vraiment des, on va dire, des limites qu'on se fixe et qui sont fixées par l'éditeur. Et dans certains aider. Il y a une loi, en plus il y a une loi. Merci Lucie, en plus il y a une loi.
Grotesque.
Et ensuite, pour certains éditeurs, des contraintes d'écriture. Voilà. Mais après, Jérôme. Moi, j'ai deux expériences complètement extrêmes, hein, donc de quelqu'un qui a vraiment.
Il
y a la loi de 1948. Il faut pas nuire au bon moral.
En gros, on a le droit de tuer des gens, mais ils ont pas le droit de faire l'amour. Heureusement qu'il est anglais.
Oui, de toute façon, le paradis perdu est la lecture quotidienne de nos têtes blondes, comme chacun le sait.
Enfin, en ce qui me concerne, les limites, aucune. Hein. La question des limites ne se pose pas. Elle s'est posée la première fois, peut-être, que j'ai écrit un roman jeunesse en me disant, oulala, mon Dieu, où je vais, comment je vais pouvoir, toutes ces scènes de relations sexuelles avec des animaux, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire en jeunesse. Et alors, c'est vrai qu'il y en a un peu moins quand même dans mes romans jeunesse. La limite aucune. Là, dans les cartons, j'ai par exemple un roman de cul pour les jeunes qu'on fera sans doute chez Thierry Magnier. Donc, sur le plan, j'ai pas un petit bouton où je switch adulte jeunesse. Après, il y a des choses qui se font naturellement. Il y a quelque chose aussi quand même spécifique, et encore, on pourrait passer outre, et je le ferai sans doute, c'est qu'effectivement, on va utiliser des héros adolescents, ce que moi, j'ai assez peu eu l'occasion de faire en adulte. Alors, il y a beaucoup d'enfants dans mes bouquins, beaucoup de vieux, des ados, voilà, c'est un personnage intéressant à développer. Bon, à part ça, alors effectivement, stylistiquement, dans la construction narrative, on va peut-être être un petit peu moins... Bon, enfin, à part ça, ça s'arrête là. Mais alors effectivement, la loi peut venir vous ennuyer un peu, c'est arrivé dernièrement. J'étais content de voir des gens qui avaient lu mes romans jeunesse en me disant « Ah, je l'ai lu jusqu'au bout, je n'avais pas compris que c'était un roman jeunesse, mais très bien. » Enfin, moi, les romans jeunesse, je ne sais pas, je suis passé directement du Club des 5 aux 120 Journées de Sodome. Enfin, et... Non, j'ai passé une petite étape, là, quand même. Mais...
Ça a changé.
Et il y aurait une aventure à développer. Et, enfin, la littérature jeunesse est une invention éditoriale, hein, ni plus ni moins, quoi. J'avais accès à la bibliothèque de mes parents, je lisais les bouquins qui étaient dans la bibliothèque de mes parents, point barre, quand je trouvais que les petits romans que j'avais lus auparavant ne me suffisaient plus. On a eu une grande table ronde à Saint-Malo au Festival Étonnant Voyageur sur le sujet, avec autour d'une psy, il y a toujours les psys, elles ramènent pas mal quand, dans ces cas-là, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Doit-on avoir peur de la littérature jeunesse hein, ?» qui était publié chez Thierry Magnier sur la question. Et je modifie peut-être un peu le titre, enfin peu importe, c'est quelque chose comme ça, doit-on craindre, doit-on avoir des suées On est arrivé comme globalement à la conclusion que ce qui comptait c'était de faire des bons bouquins et le reste on s'en fout un peu, voilà. Et que de toute façon le grand pouvoir du livre et ça, c'est qu'on peut toujours le refermer. Quand on a payé une place de cinéma, on a du mal à lever ses fesses du siège. On est captif. On est captif aussi du livre, hein, bien sûr. Hein. Le livre n'est pas anodin du tout. C'est pas ce que je dis. Mais un livre, on peut toujours le refermer et se dire oh, bah, je le reprendrai plus tard quand je serai un peu plus grand. Il faut faire confiance. Alors, dans le cas de la littérature jeunesse, il faut faire confiance au lecteur. Voilà. Et on ne fait pas assez confiance à notre belle jeunesse.
Je suis malheureusement assez d'accord avec Jérôme Noiret, ça m'inquiète, ça me désole. Il y a quand même... alors, dans la littérature jeunesse, les contraintes, souvent, les auteurs ont tendance à se les mettre eux-mêmes en pensant que de toute façon, ils ne peuvent pas faire un truc avec du sexe ou un truc qui se finit mal et ça. Ça vient encore de m'arriver, moi, chez Albin... je viens de rendre un manuscrit où j'ai une épilogue qui est censée un peu sauver le roman et donner une note d'espoir. Et mon éditrice m'a dit, mais c'est ridicule, quoi. On enlève ça tout de suite. C'est-à-dire, c'est très bien comme c'était. Donc on a toujours cette espèce d'association d'idées. C'est pour la jeunesse, donc il faut que ça se termine bien. Ce qui est en fait stupide. Enfin, c'est la dernière chose à faire. Si il doit y avoir une vertu pédagogique en plus dans la littérature pour la jeunesse, c'est d'expliquer aux jeunes que généralement ça se termine pas bien dans la vie de façon générale, quoi. Donc, à commencer par la vie elle-même. Donc, et ça les dérange pas plus que ça, les gamins. En revanche, au niveau de, il y a peut-être quand même une limite au niveau de l'expérimentation formelle, quoi. C'est-à-dire, si on commence à faire un bouquin sur le modèle de, pour reprendre des exemples de transfiction, La Maison des Feuilles ou de Danielewski ou Feu pâle de Nabokov, je veux dire, bon, plaquer ce modèle-là directement sur une histoire pour la jeunesse, c'est quand même aller un peu loin. Il ne faut pas oublier que les lecteurs à 12, 13, 14 ans peuvent justement refermer très facilement un bouquin, non pas parce que ça leur fait peur, ça les effraie, que ça les dégoûte, mais parce qu'ils s'emmerdent ou ils comprennent rien, quoi. Donc ça, il faut faire un petit peu attention à ça. Souvent, on peut parler de tout. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Mais d'une certaine façon, dans un récit construit de façon à ce que le lecteur ait envie de tourner les pages, quoi. Quand on va dans les collèges, on a des félicitations de professeurs ou de documentalistes qui nous disent un tel, c'est la première fois qu'il arrive à finir un bouquin. Bon, c'est quelque chose, c'est un résultat auquel on parvient aussi pas par hasard, c'est que quand même on applique plus ou moins quelques recettes d'efficacité narrative, je dirais, qui font que le gamin, premièrement, il lit le livre et il a envie de savoir ce qui se passe, quoi. Et à partir de là, on peut lui raconter justement plein de choses sans presque qu'il s'en rende compte, quoi.
C'est juste un point, je suis horriblement d'accord avec toi, il va falloir qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre. Mais, d'ailleurs, tu as répété un peu ce que j'avais dit quand même. Hein. Et c'est vrai que dans les motivations de l'écriture jeunesse, l'aspect pécuniaire existe, hein, enfin on ne va pas mentir.
C'est des commandes.
Bien sûr, on peut fonctionner par commande, on vend plus qu'en adulte, point barre, hein, et donc on gagne plus. Mais il y a vraiment...
Ah oui, oui, c'était
clair. Enfin, en ce qui me concerne, en même temps, je partais d'assez bas, donc... ouais, alors vous allez.
C'est pour ça que tu voulais pas me donner tes chiffres de vente l'autre jour.
Vous allez tous regarder ce petit appareil. Et non, mais un des grands plaisirs, une des grandes motivations aussi de la jeunesse, c'est le rapport avec le lectorat. Car le rapport avec le lectorat adulte est quand même des plus brumeux, pour dire les choses. Alors qu'il y a des moments de. Bon, il y a des moments aussi d'ennui et d'envie de claquage de bec intempestif, mais il y a des moments de véritable plaisir. On a enfin une rencontre avec des lecteurs qui ont pris leur pied à vous lire et qui vous le disent. Il n'y a pas très longtemps, dans une classe, quand même, les élèves étaient tellement impatients de lire la suite de Fleurs de Dragon, qui sort en septembre, que certains se sont mis à l'écrire. Ils ne pouvaient pas attendre. Ils ont écrit. Et j'ai donc mes premières fanfictions, absolument. Ouais. Mais on a substitué au dernier moment, c'était bien meilleur. Et donc oui, alors on nous mâche le boulot, c'est très pratique. Ouais.
Oui.
Dès qu'on touche à la jeunesse, on peut se retrouver confronté à des associations style Famille de France. Et que la loi, ça nous précise bien que quand on écrit pour la jeunesse, on a interdiction de désespérer les jeunes. Donc des fois, on a envie de leur parler de la réalité, de ce qui les attend. Et non, il faut pas, on ne doit pas les traumatiser, machin.
La loi n'est pas appliquée. Hein.
Heureusement.
Non,
mais il y a quand même des associations. Tu vois déjà les jeux vidéo, les jeux de rôle et autres qui sont accusés dès qu'il y a un gamin qui se suicide. On ne va pas chercher pourquoi. Ah ouais, il jouait aux jeux de rôle, donc forcément, c'est ça qui... on va vite arriver, quand on voit certaines associations intolérantes et psychorigides, on va vite arriver à « c'est cet auteur jeunesse qui est cause du suicide de mon gamin ».
Et ça fait un super bandeau rouge.
Alors, pour moi, j'ai une question qui va remonter un petit peu à la source, justement, de cette association entre la fantasy et la jeunesse, qui fera peut-être moins polémique ici qu'elle ne l'aurait fait à la table ronde précédente, mais finalement, j'aimerais quand même poser la question, parce que, une fois de plus, c'est quelque chose contre lequel Tolkien s'insurgeait. Est-ce que, finalement, il y a une association nécessaire entre le conte de fées ou la fantasy et la jeunesse? Est-ce que le conte de fées ou la fantasy est nécessairement destiné à la jeunesse? Ou est-ce que on trouvera du lectorat de tout âge et on trouvera des gens qui s'intéresseront à ce genre-là? Voire même, est-ce que la jeunesse n'est pas spécifiquement intéressée à la fantasy, mais en fait s'intéresse déjà à tous les genres de littérature qui existent?
Les contes de fées à l'origine n'étaient pas destinés à la jeunesse. De fait.
L'interprète français,
il y a une enfance dans, il y a quelque chose de l'enfance dans le genre, hein, une espèce de plaisir ludique qui peut se, mais il y a aussi du fantastique assez noir pour enfants. Je ne connais pas malheureusement l'ouvrage de Francis destiné à la jeunesse, mais on peut penser à Neil Gaiman dont Coraline sort maintenant. Et je ne sais pas si tu c'est quelque chose que tu c'est un public que tu peux envisager aussi, Mélanie.
C'était pas un peu la question inverse que...
Oui, c'est plutôt la question inverse, je crois, oui. Voilà, il se trouve que, bon, statistiquement, c'est plutôt au niveau des nouvelles que je... que je me retrouve à écrire de la fantasy. Bon, par exemple, j'ai écrit une nouvelle dans l'anthologie Dragon que Sébastien Guillot a dirigée chez Kallmann. Et c'est de la fantasy, parce qu'il y a un dragon. Et puis, c'est une histoire d'amitié entre un bébé humain et un bébé dragon. Et c'est complètement de la fantasy. Ça ne s'adresse absolument pas à des enfants. Enfin, c'est... Non. Et je me souviens, ben, il y avait eu l'anthologie où... Le premier texte que j'avais lu de Fabrice, l'homme dont la mort était une forêt, c'est ça? Bon, c'était pour moi un grand choc, ce texte, parce que c'était de la fantaisie, c'était sublime, et c'était une nouvelle, et pas du tout un cycle en trois volumes interminable avec où on se castagnait. Donc c'était très très intéressant. Donc ça ouvre vraiment. Il y a d'autres portes possibles qui relèvent de la fantasy et qui ne sont pas du tout du conventionnel. Et peut-être on n'a pas assez parlé de la nouvelle, justement, à ce propos-là.
On en reparlera avec Lucie Genu, notre grande spécialiste de la nouvelle. Oui.
Donc on conclut que l'enfance en fantasy est, comme disait Spinoza, un abîme d'ignorance, enfin, et on va manger. Alors, je privilégierais peut-être. Alors, par rapport au repas, donc nous avons 33 places. D'autres peuvent venir aussi. Hein, je pense qu'on peut s'arranger. C'est pas dit. Hein, il faut discuter avec le chef. Alors, ceux qui viennent de très loin, on a parmi nous des gens qui viennent de la Réunion. Hein, je suis assez touchée par ça. Donc, vous venez naturellement. Et puis, ceux qui viennent de loin, venez en priorité. Voilà.
Un peu frustrant. Il y avait plein de choses à.